17h à Niamey, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de la grande édition d'information de Studio Kalangou. Je suis Nafissa Adam Sirfo au micro. Au sommaire, le gouvernorat de la région de Niamey confirme dans un arrêté l'apparition de la grippe aviaire H5N1 dans une ferme avicole familiale de la commune 1 de Niamey. Selon le directeur général des services vétérinaires, la situation est sous contrôle. Des éléments armés non identifiés ont attaqué dans la nuit du samedi au dimanche la commune de Chetemari. Pas de pertes en vie humaine ni de blessés. Des véhicules de la mairie emportés selon une source interrogée par le studio Kalangou. Dans le magazine Justice de ce journal, vous suivrez une analyse d'un juriste sur les causes et conséquences liées à la décision de l'AES de se retirer de la CEDEAO. Dans un arrêté du 30 janvier 2024, le gouvernorat de la région de Niamey fait état de la présence de la grippe aviaire H5N1 dans une ferme avicole familiale au quartier Plateau dans l'arrondissement communal Niamey 1. Le 27 janvier, le labo SEL confirme la maladie. À l'heure actuelle, tout est sous contrôle et la maladie est circonscrite selon Dr Aboubakar Ramou. Il est le directeur général des services vétérinaires. Il est interrogé par Maman Ada.
Dans le mois de janvier 2024, il y a une ferme avicole dans une maison de l'arrondissement communal 1 de Niamey. Il y avait 250 volailles où on a constaté des morts massives des sujets. Un prélèvement a été fait et envoyé au labo SEL. L'examen a confirmé la grippe aviaire H5N1 le 27 janvier 2024. Rapidement, au niveau de la direction régionale et le ministère, nous avons pris des dispositions. Ces mesures nous ont permis de déclarer cette infection. C'est une maladie détectée et rapidement circonscrite pour empêcher sa progression. La deuxième mesure prise était d'incinérer les volailles contaminées, désinfecter l'endroit, vérifier aux alentours de la maison pour éviter toute fuite d'animal et vérifier aussi si un voisin n'est pas en contact avec la maladie. Dieu merci, la maladie est sous contrôle.
Des éléments armés non identifiés ont attaqué dans la nuit du samedi au dimanche la commune de Chetemari. Plusieurs dégâts ont été enregistrés. Abana Tella, président du comité communal de paix, donne des précisions au micro de Gidi Abdrahman.
Avant-hier, des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans la nuit du samedi au dimanche entre 1h et 3h du matin dans la commune de Chetemari. Ils ont brûlé deux véhicules de la mairie. Ils ont pris un véhicule avec le chauffeur du maire. Mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Les FDS qui sont sur le poste de contrôle de Chetemari n'ont même pas réagi. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit du gouvernement, c'est de redoubler d'efforts, parce que ça fait plus de 10 ans que nous sommes sous état d'urgence. Et qui dit état d'urgence dit protection des personnes et de leurs biens de la part du gouvernement. Mais voilà que la nuit, au moment où tout le monde dort, des gens viennent s'emparer de nos biens. Personne ne les poursuit. Je n'ai pas aussi dit que l'État ne fait pas d'efforts.
À Agadez, deux individus parmi les personnes susceptées d'avoir tué le maire de Dabaga, Mohamed Agali, à son domicile dans le village de Bungoul de la nuit du 29 au 30 janvier ont été arrêtés. L'enquête est toujours en cours selon le secrétaire général de la commune rurale de Dabaga, Guissa Mohamed, qui est joint par Moussa Maman.
L'enquête est toujours en cours. Il y a eu des arrestations. Donc maintenant, le troisième est toujours en fuite parmi les coupables. Le premier a été arrêté là, près du domicile du maire, parce qu'il a eu une fracture. Et selon ce qu'il nous disait, il a fait un faux pas. C'est ce qui a fait qu'il a été fracturé. Là, lui, il a été arrêté là, à côté du maire. Et le second a été arrêté vers Adrabi Sanat. Il a été en cours de sa fuite. Il a été donc intercepté par les gendarmes de Adrabi Sanat. Ils l'ont arrêté pour le ramener à Tiro. Au niveau de Dabaga, en tout cas, la situation est calme et surtout, plus particulièrement dans la zone de Bougal, là où le maire a été assassiné chez lui-même. En tout cas, hier, on a eu, après le monde, on a tenu une grande assemblée générale, là où on a mené une large sensibilisation pour apaiser donc l'attention des gens. Parce que ça, là, maintenant, comme l'enquête est en cours, tout le monde maintenant doit se taire, regarder, voir ce que l'enquête doit donner.
Et ce fait divers à Tessawa, la police a interpellé une personne âgée de l'affaire d'un cas de viol sur une fille âgée de 9 ans. Le présumé coupable est déjà à la prison civile de Tessawa. Selon les informations recueillies par la direction départementale de la police, souvent des cas comme celui-ci sont enregistrés. Écoutons le commissaire Abdelaziz Boujouma, directeur adjoint de la police de Tessawa, au micro de Ilia Moumouni.
C'est une situation que nous vivons tous les jours ici au commissariat. Certes, la loi est très sévère pour les auteurs des viols, en particulier sur les mineurs en dessous de 13 ans, comme le cas de cette petite fille de 9 ans. Ce n'est pas la première fois que nous enregistrons des cas de viol. Ils sont nombreux. Pour le cas de cette fille, c'est très compliqué. Le secret professionnel ne nous permet pas de raconter certaines choses. Mais pour plus de précisions, je vous invite à assister au jugement qui aura lieu à la Cour de justice, comme nous avons déjà déféré le coupable à la prison civile. Les résultats des examens cliniques que nous avons reçus des services sanitaires n'ont pas fait état d'une quelconque maladie. Ils nous ont juste annoncé le viol. D'après notre constat, c'est peut-être la pauvreté qui a poussé cette petite fille à se retrouver dans cette situation.
La suite de ce journal, 40 journalistes et acteurs de la société civile étaient la semaine dernière en formation sur le mécanisme de la désinformation, la cybersécurité et le fact-checking. Cette formation est organisée par l'ONG SOS Civisme. À la fin, quelques-uns d'entre eux se disent outillés pour disséminer la formation. On les écoute au micro de Mani Moussa.
Cette formation que nous avons suivie est destinée aux journalistes. Elle permet d'attirer l'attention des hommes des médias sur comment traiter l'information pour qu'elle soit bénéfique à la population. Cette formation est aussi une opportunité pour nous autres de revisiter les fondamentaux de la profession. L'information doit être une denrée qui facilite la cohésion et la stabilité sociale. Par exemple, dans la région de Difa, les journalistes sont tenus de vérifier l'information avant de la diffuser.
Nous avons été formés sur des thématiques qui nous permettent de collecter des informations fiables et vérifiées pour éviter de diffuser des fausses informations.
Le Niger a lancé officiellement la semaine dernière la première session du comité du pilotage de la dorsale transsaharienne à fibre optique pour l'année 2024. Relativement à la fibre optique, Ousmane Mamoudou, responsable du desk numérique de Studio Kalangou, nous explique ce qu'est cette fibre optique et ses avantages. On l'écoute au micro de Terman Foudey Ahmed.
À contrario de la fibre de l'ancienne génération, qui n'était même pas de la fibre qu'on appelait l'ADSL, donc la fibre optique, c'est plus du cuivre, c'est du verre. C'est tout petit, mais c'est super résistant. Donc, c'est quoi l'intérêt? On peut en citer trois principaux qui sont l'absence d'interférence, la capacité de téléchargement qui va beaucoup augmenter et normalement, il va aussi y avoir un avantage sur les coûts pour les utilisateurs. Ça va baisser. Et naturellement, qui dit baisse de coûts dit aussi avantage pour les entrepreneurs qui utilisent Internet. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir déployer plein d'applications. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en place plein de sites Internet qui vont proposer plein de contenus vidéo aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne consomme pas beaucoup de vidéos au Niger parce que c'est cher. Si jamais les prix baissent, la consommation d'informations, même sur Internet, va beaucoup changer.
Parlons environnement. Le Conseil national de l'environnement pour un développement durable a initié vendredi à Dosso une rencontre d'échange, de partage d'informations sur la mobilisation des ressources et les initiatives de financement de la biodiversité. Maman Sani Saka, coordinateur du CNEDD, nous parle des défis que connaît le Niger en matière de biodiversité. On l'écoute au micro de Aoussou Abdrahman.
Le Niger a plusieurs défis, notamment la perte de la diversité biologique, les impacts du changement climatique et des problèmes environnementaux globaux. Un des objectifs qu'on a fixé, c'est comment il faut mobiliser les ressources financières, tant au niveau national qu'international. La télé a pour objectif d'identifier toutes les initiatives pour le financement des questions environnementales, les questions de restauration des terres, les questions de biodiversité. Nous sommes sur un nouveau programme 2020-2030 sur la conservation de la diversité biologique en particulier.
Pendant ce temps, les jardiniers de la commune de Bandé se plaignent des vols et autres dégâts causés par des animaux. C'est pourquoi certains d'entre eux lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités pour trouver des solutions. Ado Rabka, un des jardiniers victimes de ces dégâts, s'exprime au micro de Maki Ousseni.
Ce qui nous dérange le plus, ce sont les dégâts commis par les populations et les animaux. Ici, les autorités ont mis l'accent sur la culture maraîchère et nous sommes également intéressés à cette activité. Le maraîchage est la seule activité qui nous permet de subvenir aux besoins quotidiens de nos familles. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles puissent sanctionner les auteurs de ces dégâts afin de mettre fin à ce problème. Également, quand les animaux causent les dégâts, que leurs propriétaires soient punis pour que cela ne se répète plus. Et nous disposons d'une organisation qui règle ces genres de conflits. Mais quand les animaux nous causent des dégâts, l'institution ne sanctionne plus. Le pire est qu'en cas de dégâts, les propriétaires des animaux sont taxés à 5 000 francs CFA. Est-ce que 5 000 francs CFA peut réparer ce que nous avons investi dans le maraîchage?
Du sport en bref, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 en République dominicaine cette année, pour la zone Afrique, le MENA national féminin U17 du Niger défiera les Lioncelles de l'Atlas du Maroc en match aller ce lundi 5 février au Maroc. Selon l'entraîneur des dames U17 du Niger, Hamidou Djibo, la plupart de ses joueurs sont à leur début. C'est donc une rencontre d'apprentissage. Toujours en football, pour la CAN en Côte d'Ivoire, les demi-finales débuteront le mercredi 7 février. Quatre pays peuvent encore rêver de remporter cette coupe. La première rencontre mettra aux prises le Nigeria, triple vainqueur à l'Afrique du Sud, suivra le choc à RD Congo et la Côte d'Ivoire. Le magazine de cette édition, les régimes militaires au pouvoir des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont le mois dernier annoncé leur retrait sans délai de la CEDEAO. Un nouvel acte de rupture aux conséquences potentiellement lourdes pour l'économie et la stabilité politique de la région, estime Maître Ali Moussa. Il est juriste. Il fait une analyse des causes et conséquences liées à cette décision de l'AES au micro de Anissé Karim.
Vous asseoir.
L'audience est ouverte.
L'adhésion à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest requiert le respect d'un certain nombre de règles et principes, explique Maître Ali Moussa.
La CEDEAO, c'est une communauté des États de l'Afrique de l'Ouest créée le 28 mai 1975. Et en ce qui nous concerne particulièrement au Niger, c'était sous la bannière du régime d'exception. C'était les militaires au pouvoir à l'époque aussi. À travers un traité, vous devenez membre et vous participez à la vie de cette communauté en respectant un certain nombre de principes, de règles et aussi de canevas pour la gouvernance. C'était une mission économique et du développement au départ. C'est par la suite que le volet sécurité a été intégré.
Une violation des principes de la CEDEAO peut amener le divorce d'un pays membre avec cette institution. C'est l'une des raisons avancées par le régime des trois pays qui forment l'AES.
Selon l'article 91 de l'accord révisé, il parle d'un préavis d'un an avant de sortir. Vous faites la notification, vous attendez un an pour sortir. Et dans cette période d'un an-là, il y a la possibilité pour revenir. C'est ce à quoi eux, ils s'attendent. Donc, pourquoi c'est à effet immédiat? Voilà ce qu'ils se demandent, ces responsables de la CEDEAO. Si la CEDEAO elle-même se permet de violer le texte qu'elle s'est donné elle-même, alors ceux qui sont membres et qui aspirent au retrait peuvent également utiliser les mêmes procédés, c'est-à-dire en violant les principes, parce qu'une façon de leur dire que, voilà, de la même façon qu'on est rentré, on est sorti. Les mêmes accords qui les ont créés ont prévu les mécanismes pour sortir. Ils ne sont pas investis d'un rôle patriarcal où si ton enfant déconne, tu le bastonnes. C'est une réponse, c'est tout. Tu me tapes, je te tape, c'est fini.
Même n'étant pas membre de la CEDEAO, des accords bilatéraux peuvent bel et bien exister entre les pays membres de l'AES et ceux de la CEDEAO, explique Maître Ali Moussa.
Aucune conséquence dramatique. Il suffit tout simplement que ces pays de l'AES signent des accords bilatéraux ou multilatéraux avec la CEDEAO elle-même, pourquoi pas, et avec les pays voisins, par exemple avec le Nigeria. On peut faire des accords entre nous, il n'y a pas de problème. Si c'est le passeport qu'il faut instaurer. Mais nous aussi, pour accéder à notre territoire, il vous faut un passeport. C'est le principe de la réciprocité en droit international. Donc, ils nous imposent des conditions. Nous aussi, on leur impose. Dorénavant, le Niger et les pays membres de l'AES soient assis sur des bases solides pour discuter en état, en souverain, vis-à-vis de n'importe quel autre état du monde.
L'audience est levée.
De ce journal, restez avec nous pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve à partir de 18h15 dans le forum de Studio Kalangu pour débattre du thème « Quel forage pour une meilleure qualité de l'eau à Niamey ?» Restez à l'écoute de nos programmes tout de suite à Le Journal en langue tamashèque avec Alamine Ouachar.